Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. On profitait un peu de la musique du générique et de Florent Pagny pour commencer cette émission mensuelle du Libre Journal de la Liberté de Penser. Je vous retrouve avec plaisir, chers auditeurs fidèles du Libre Journal de la Liberté de Penser. N'oubliez pas de réagir, hein. Je suis toujours ravie d'avoir vos questions et commentaires en direct et je les diffuserai bien volontiers. Nous avons nos bénévoles qui gentiment assurent la transition entre le téléphone et le studio. Alors aujourd'hui, je vais commencer par deux enquêtes en fait, on peut résumer ça comme ça, qui s'ouvrent sur une formule frappante. Il y a 15 ans, on nous assurait que jamais le halal ne s'étendrait dans nos vastes plaines. Et Lauriane Bernard, qui est parmi nous et qui est journaliste chez Frontières. Bonjour Lauriane.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le pas de découvrir peut-être aussi nos studios. Il y a des vérités que la France préfère ne pas entendre et des réalités qu'on minimise d'abord et puis qu'on raille ensuite et puis finalement qu'on finit par ignorer. On en parlait juste avant le générique de notre émission jusqu'à ce que finalement, elles s'imposent d'elles-mêmes. Et puis ce midi, j'ai décidé d'en explorer deux, hein, la généralisation du halal. C'est pour ça que vous êtes ici, parce que vous avez fait une enquête pour le magazine Frontières, que j'invite nos auditeurs à se fournir. C'est quoi? C'est un mensuel, un hebdomadaire?
C'est un trimestriel.
C'est un trimestriel. La généralisation du halal qui gagne chaque année de nouveaux territoires, des zones commerciales de périphérie, aux bourgs ruraux, sans que personne dans les sphères médiatiques ou politiques n'ose vraiment en parler. Deuxième enquête, et nous recevrons à cette occasion Yves Sevilla, journaliste politique chez Boulevard Voltaire. Lui, c'est l'enquête de Charles Alloncle sur l'audiovisuel public que ses adversaires ont tenté d'étouffer avant sa publication et dont les recommandations dérangent assez pour qu'on préfère les déformer plutôt que les discuter. C'est le point commun que je voyais entre vos deux sujets. Alors, deux sujets, deux journalistes qui ont fait le travail que d'autres ne voulaient pas faire. Bienvenue dans La France sans filtre et le Libre Journal de la Liberté de Penser. Alors, on va attaquer avec vous. Lauriane Bernard, journaliste Frontières. Vous êtes auteur d'une enquête qui a été réalisée, il me semble, en septembre 2025.
Oui, c'est ça.
Dans le magazine Frontières. Et qui s'appelait, dites-moi si je déforme votre titre, de Quick aux campagnes, la France sous influence halal.
C'est exactement ça.
De Quick, on va dire aux auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, aux campagnes. C'est aux campagnes aussi qui est encore le plus surprenant finalement. La France sous influence halal. Alors, votre enquête, chère Lauriane, elle s'ouvre sur une formule qui m'a frappée. Il y a 15 ans, on nous assurait finalement que Quick, alors je rappelle que Quick, c'est une chaîne de restauration rapide.
C'est ça.
Ne passerait jamais au tout halal. 10 ans plus tard, on affirmait que le halal ne s'implanterait pas dans nos campagnes. Et pourtant, avant de raconter ce que vous avez trouvez-vous comme élément pour vos enquêtes, votre enquête parue dans le magazine Frontières, dites-nous comment vous en êtes venu à vous emparer finalement de ce sujet et y a-t-il eu un déclic ou une scène, un fait précis qui aurait tout déclenché?
Alors, déjà pour commencer, c'est vrai que le halal, on en parle un peu tous les jours dans les médias de droite, identitaires, mais on ne sait pas vraiment ce que ça représente en France. On en parle souvent au moment du ramadan, au moment de l'Aïd, il y a des scènes assez choquantes, voilà, d'égorgement de moutons et j'en passe, mais vraiment le halal n'est finalement abordé qu'à ces moments-là précis de l'année. Et moi, j'ai voulu me pencher sur son développement sur le territoire et j'ai vraiment l'angle de cette enquête, c'est vraiment voilà, quand le halal a commencé à s'implanter en France, c'est ce que je disais, on disait que c'était épars, que ça concernait que de petits endroits, d'abord les kebabs, et que ça ne s'étendrait jamais, que c'était une pratique culturelle très restreinte, et que si vous osiez penser que ça allait s'étendre, on vous criait...
C'est ce que je disais dans mon émission, première étape, on minimise.
Voilà, les anathèmes de fachos, d'extrême droite, donc je me suis dit, à l'heure actuelle, qu'est-ce que le halal représente en France? J'ai pris le cas emblématique d'une enseigne de restauration rapide comme Quick, qui a été une des premières enseignes à commencer le halal en 2009. Et pareil, à ce moment-là, les dirigeants promettaient que ce n'était que quelques restaurants très géographiquement ciblés et que ça ne s'étendrait pas. La seule politique à l'époque qui avait alerté là-dessus et qui disait que si ça commence, ça finira par tout halal, c'est Marine Le Pen.
Elle est en 2009.
En 2009. Et voilà. Et j'ai pris ensuite des cas dans la presse régionale de voilà, de petites villes, parfois villages, où le halal commence à s'implanter. Et pareil, ça, c'est un phénomène assez nouveau.
Incroyable,
dont
ça.
On ne parle pas, ouais. Parce qu'on croit encore que c'est un phénomène réservé aux grandes villes.
Aux banlieues.
Aux banlieues, surtout, évidemment. Mais non, non, ça commence à venir dans les campagnes. Donc, il suffit, voilà, de faire un recensement, une espèce de veille. Bah, voilà, vous en avez dans la Creuse, vous en avez beaucoup en Alsace. Voilà, c'est pas des terres, voilà, comme on pourrait pas penser que le halal s'installe là. Et si, ça commence, et puis c'est quand même bien implanté.
On va revenir là-dessus et sur ce que vous avez trouvé au cours de votre enquête. Alors, ce « on » qui niait, qui minimisait, qui raillait, pour reprendre les propos de mon introduction, c'est qui exactement dans votre enquête quand vous dites « on » ? Qui avait intérêt à ça ?
Alors, qui a intérêt, c'est toute la question, mais c'est surtout, je pense, à un passage en 2009, il me semble, de Marine Le Pen dans une émission du service public, je ne sais pas laquelle, mais c'était présenté par Anne-Sophie Lapix. Et elle le dit, mais écoutez, il y a 4 restaurants halal quick, dans quelques temps, ça va s'étendre à tous les restaurants. Et Anne-Sophie Lapix répond, non, c'est un test pour l'instant. C'est un test, ça ne s'étendra pas, c'est présenté comme un test. Voilà, déjà, il y a cette première étape, la première barrière idéologique, le fact-checking journalistique. On vous dit que c'est pas vrai, ce que vous dites, c'est vos projections sont fausses. Et au fil du temps, l'enseigne développe le halal. Ça commence 4 restaurants, l'année d'après c'est 8. Comme ça, jusque 2015, il y a voilà, y a, ça commence à s'étendre. Il y a beaucoup de scandales sanitaires, l'enseigne ne va pas bien économiquement, décide de vendre et c'est le groupe Bertrand qui rachète. Et à ce moment-là, il se dirige pas totalement vers le halal, mais ils veulent que ce soit Burger King qui rachète les anciennes Quick et qui y a une transformation de Quick en Burger King. Il y a la crise sanitaire qui passe. Et finalement, l'opération se porte. Enfin, les transformations de Burger King économiquement, ça tient pas. Enfin, l'enseigne Quick ne redémarre pas même sous Burger King. Et en fait, ce que font le groupe Bertrand, c'est qu'ils regardent des résultats économiques et se disent, c'est bizarre. Y a certains Quick qui s'en sortent mieux que d'autres. Et là, ils se disent, ceux qui s'en sortent mieux que d'autres, ils sont tous passés au halal finalement.
Quand on vous dit, vous s'en sortent mieux, c'est économiquement.
Économiquement.
Donc c'est quand même la force économique,
bien sûr,
et
bien
du
sûr.
Clientélisme.
Ça, c'est un point de l'article sur Quick. Évidemment, qu'il y a des... En fait, Quick s'est installé dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de restauration halal. Donc, on le voit, quand les gens interagissent aux ouvertures des Quick, voilà, et le journaliste de la presse régionale, pourquoi vous êtes là ? C'est un des seuls restaurants halal encore que j'ai proche de chez moi, donc je viens. Donc, c'est un argument économique. Et surtout, Quick a été la première grande enseigne de restauration rapide à lancer le halal. Donc, maintenant, elle est identifié dans les populations musulmanes comme halal, peut-être pas auprès des Français, ça c'est un truc, parce que l'enseigne ne communique pas dessus.
Enfin, auprès de ceux qui ne sont pas musulmans.
Voilà, auprès des Français qui ne sont pas musulmans, l'enseigne ne communique pas trop dessus. Quand on demande au PDG de Quick pourquoi son orientation, il reste très évasif.
Ça, c'est un truc incroyable aussi. C'est-à-dire que ça se fait, mais ça se fait à bas bruit.
À bas bruit.
Ça se fait de façon souterraine. Vous dites, alors on va revenir parce que j'avais une question dessus. Vous dites que, de ce fait, du coup, j'accélère un peu sur la question qui a un rapport avec ça. Vous dites, si on rentre dans le vif du sujet, que en fait, ils sont certifiés halal par la grande mosquée de Lyon.
Oui, c'est ça.
Et vous dites que on peut lire qu'en petit caractère, que les viandes sont, je cite, ouvrez les guillemets, contrôlées et certifiées halal par l'association rituelle de la grande mosquée de Lyon. Donc une formulation qui est finalement technique, discrète, et que l'immense majorité des clients ne lit jamais. C'est un silence qui est assumé, c'est de la prudence commerciale, de la lâcheté, ou c'est même une stratégie carrément délibérée ?
Moi, je pense que, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est une stratégie délibérée. Je pense que la communauté musulmane a ses réseaux de communication et ils savent que Quick est bien identifié halal. Pour le reste des Français qui ne sont pas musulmans, ils ne le savent pas forcément.
C'est sûrement des auditeurs qui même nous entendent et découvrent qu'ils mangent halal.
Alors,
en allant chez Quick.
Exactement, parce que moi, quand j'ai commencé sur Quick, je me suis dit, tout le monde le sait. en fait. Tout le monde le sait, qu'ils sont passés au tout halal.
Alors, peut-être. Le tout est important aussi, ouais. Excusez-moi Lauriane, mais pour préciser, c'est-à-dire que vous n'allez pas chez Quick en disant, bah, tiens, je vais prendre un hamburger qui ne soit pas halal.
Ah non, il n'y a plus d'alternative.
C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix.
Voilà, c'est ça. C'est le cœur du sujet, c'est qu'il n'y a plus d'alternative. Vous ne pouvez pas aller au guichet de ce restaurant rapide et demander un hamburger non halal. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et moi, quand j'ai commencé ce sujet-là, je vous avoue que je me disais, je vais faire la liste de ceux qui sont passés halal et ceux qui sont restés non halal. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, ils étaient tous passés au halal.
Tous les
Même moi, j'ai découvert. Je savais qu'il y avait une bonne partie, ouais. Mais je ne savais pas que c'était tous les Quick de France qui étaient halal. Et je ne suis pas persuadée que tout le monde le sait. Et j'ai fait des vidéos, voilà, à ce sujet. Et dans les commentaires, il y a des gens qui disent, mais oui, mais tout le monde le sait. Et d'autres l'apprenaient vraiment, le découvraient, hein, disaient, ah oui, c'est halal, je savais pas.
En fait, quand vous passez devant un Quick, bon, moi, j'y rentre peu, hein, parce que voilà. Mais au moins, quand vous passez devant, vous n'avez pas des grands panneaux, comme il peut arriver sur des kebabs d'ailleurs, avec la mention halal, l'étiquette qui dit
oui,
que.
Oui, la petite certification verte.
La certification verte, exactement. Ça, vous n'avez pas. Alors, ce qui est fascinant dans votre récit, c'est. On va le reprendre quand même un instant, parce que vous l'avez déjà évoqué, c'est la chronologie en fait des démentis. Ils n'ont pas peur. Hein. Donc en 2015, Quick l'affirme noir sur blanc sur Facebook, hein, c'est ce que vous dites.
C'est ça.
Je cite encore, Quick n'est pas et ne deviendra pas une chaîne de fast-food 100% halal. C'est dit en 2015, c'est quand même pas si vieux. En 2018, Check News, qui est pardon pour l'anglicisme, c'est les auditeurs de Radio Courtoisie, mais c'est le terme. Donc en fait, c'est le service de vérification de Libération, le journal, qui répond avec indignation à ceux qui posent encore la question. Non, Quick n'est pas 100% halal. On est en 2018. Et puis en 2021, vous l'avez évoqué, HIG Capital rachète la chaîne et certifie l'intégralité du réseau.
C'est donc, ça, c'est un fonds américain, HIG Capital. Et en fait, bah, que fait un fonds américain quand il rachète une chaîne de restauration? Exactement. Il regarde les Quick qui s'en sortent, les Quick qui ne s'en sortent pas. Ouais. Il voit que ceux qui s'en sortent
c'est
mieux...
C'est presque pire ce que vous êtes en train de nous dire.
Ah oui, mais c'est un argument économique. Ouais. Hein, voilà, Et ceux qui sont certifiés à halal, ils ont plus de clients, bah, on va passer toute la chaîne de restauration au halal. Voilà. Et c'est de là que ça s'est fait, en fait. Et c'est intéressant, cet angle-là, parce que on pense aussi que c'est souvent du lobbying, je sais pas, moi, ça pourrait être du lobbying de la Grande Mosquée de Lyon, de vouloir s'étendre et tout ça. Mais non, parce qu'il y a aussi de l'argument économique. Quand des grandes enseignes se font racheter par ces fonds-là, ils veulent faire de l'argent. Donc, en fait, ils vont juste regarder ce qui marche. Voilà. Et si le halal marche mieux que le non-halal, eh ben, c'est un segment de marché qu'ils vont prendre, mais l'aspect identitaire, culturel, ils s'en moquent, en fait. Ils s'en foutent.
Et c'est pour beaucoup de marques, hein, comme ça.
Oui, bien sûr.
Alors, je vais vous poser une question naïve. On a le droit à 2-3 questions naïves pendant l'émission. Est-ce que vous avez contacté Check News ou Libération pour leur demander ce qu'ils pensent de ce retournement et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
Alors, j'ai contacté, oui, parce que je leur ai envoyé un mail. Donc, moi, il faut savoir que quand Frontières contacte, on répond pas. Donc, le mail a été savamment ignoré, évidemment.
Donc, vous essayez de contacter Libération et vous ne répondent
non,
pas?
Non, non, non.
Comme c'est étrange.
c'est quand même le constat de ça. C'est... Voilà, il y a des politiques, des journalistes à qui on colle des anathèmes qui, pendant des années, tentent de prévenir. Donc déjà, on leur dit que c'est pas vrai. Et une fois que c'est vrai, soit on leur dit que c'est pas grave, soit on n'en parle plus.
Il faut bien entendre ce que vous dites, parce que c'est quand même incroyable. C'est une stratégie qui est incroyable. Parce qu'en fait, c'est du perdant-perdant.
Oui, c'est ça. Si vous l'ouvrez, vous perdez parce qu'on vous dit que vous êtes un complotiste d'extrême droite.
Voilà.
Mais une fois que vous avez raison...
Et que les faits sont là.
Et que
la
les faits sont là.
Devrait
en fait, moi, je suis persuadée que si un journaliste de Libération me répond, il va me répondre, mais c'est pas grave.
Alors moi, on m'a déjà répondu.
Oui.
Même des jeunes gens qui vont dans ces chaînes de restauration rapide. Des jeunes gens pourtant, on va dire, dans le courant de nos idées. Voilà. On s'en fout. C'est halal et alors ?
Oui.
On s'en fout.
Oui, alors la question du halal, il y a plusieurs problèmes. Au-delà de l'aspect identitaire, du fait que ce soit quand même
communautarisme,
que ce soit une pratique qui ne relève pas de notre culture, déjà qui soit très présente sur notre sol, c'est déjà un problème. Mais au-delà de ça, il peut y avoir quand même des problèmes sanitaires, faut le savoir.
Voilà. Qu'est-ce qu'on répond à des gens qui disent on s'en fout parce que ça a le même goût ? Ça implique quoi finalement le halal ?
Alors déjà, au-delà de l'aspect communautaire... Il y a les questions du traitement de l'animal, hein, parce qu'il faut savoir quand même que le halal, la pauvre vache est égorgée sans étourdissement.
Ça me fait mal.
Ça, c'est quand même des pratiques, quand même.
Où sont nos écolos?
Voilà, les un peu.
Alors, et la réglementation européenne, et vous le dites, impose l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage.
Exactement. En fait, il y a des exceptions juridiques pour le halal qui n'ont pas lieu d'être. Les agriculteurs français sont soumis à des normes très strictes. Voilà.
Ils sont même engloutis sous des normes. Certaines ridicules, parce qu'on en a.
Un agriculteur qui a un cheptel bovin à l'heure actuelle peut pas prendre une vache et pour sa consommation personnelle sans passer par un abattoir. Ça se faisait ça avant, maintenant. Pour sa consommation personnelle, il est obligé de passer par un abattoir professionnel.
Ouais.
Il y a des jours d'abattage halal et par exemple l'agriculteur ne sait pas si ses vaches partent pour le halal ou partent pas pour le halal, il n'en sait rien. Il a plus la main dessus. Une fois que les vaches quittent sa ferme, en fait, c'est pas ce qu'on va faire.
Ça doit faire plaisir à nos agriculteurs.
Ça leur fait très mal au cœur.
D'élever des vaches pour l'abattage halal. Et donc, on a une réglementation européenne. En ce moment-là, on l'aime pas trop. Hein. Réglementation européenne, c'est deux problèmes déjà. Réglementation. On sait que c'est normalement très contraignant, très strict, très. Mais là, on a une exception, une dérogation pour l'abattage rituel au nom de la liberté religieuse.
Oui, c'est ça. Au nom de la liberté religieuse. Une liberté religieuse, c'est bien pour l'abattage halal, mais la liberté religieuse, je sais pas, je pense aux catholiques, ils ne peuvent pas trop s'en prévaloir.
Non.
Je pense à, par exemple, je sais pas moi, la crèche de Beaucaire, fameux exemple emblématique. Par exemple, à Beaucaire, à l'hôtel de ville, c'est amende si on retire pas la crèche à l'hôtel de ville. Et là, il n'y a pas exception religieuse,
non,
c'est atteinte à la laïcité.
Manger du poisson le vendredi dans les cantines publiques, non plus. Mais cette dérogation, vous dites qu'elle est régulièrement attaquée devant les tribunaux européens, notamment en Belgique et en Flandre.
Ouais.
Il y a des. Et ça donne quoi?
Bah, ça donne. Alors, je dois dire quand même que Quick, par exemple, n'est pas halal en Belgique. Ça, c'est assez intéressant.
Ouais, pourtant, ils ont des clients là-bas.
Pourtant, ils ont des clients. C'est vrai que ça m'a surpris. Il est halal en France. Donc, voilà. Alors, ça donne quoi? Je pense que personne n'a réussi à faire valoir cet argument dans les tribunaux, sinon on le saurait. Et il y a aussi, avec le halal, j'en finirai là-dessus, un problème sanitaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, en juin, à Saint-Quentin, il y a eu un empoisonnement à la bactérie E. coli. Il y a 8 enfants qui ont été contaminés, dont une enfant de 11 ans qui est morte. Alors, il y a une enquête qui est ouverte. Je ne sais pas où est cette enquête.
Je pense qu'on veut pas que vous le sachiez.
Voilà. Et j'ai essayé de chercher encore il y a pas longtemps.
Alors ça, c'est incroyable.
S'il y a eu des poursuites engagées, parce qu'il y avait une boucherie halal qui était impliquée dans cet empoisonnement, il y a quand même une petite fille qui est morte. Hein. Et je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé de poursuites judiciaires engagées, mais il peut y avoir des risques sanitaires, tout simplement. Alors je suis désolée, je vais être un petit peu descriptive. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais bon, il faut quand même le dire. Donc, quand on égorge l'animal, on peut le pendre par les pattes. Du coup, si le nœud à l'œsophage n'est pas bien fait, il y a le contenu du tube digestif qui peut descendre dans la trachée. Et avec les fortes chaleurs, ça fait des bactéries qui prolifèrent et la viande peut être contaminée à la salmonelle ou à la bactérie E. coli. Mmh. Ça peut arriver. Donc, comme il n'y a pas eu d'enquête, je ne peux pas vous dire si c'est ça qui s'est passé. Parce que si je me fais un peu l'avocat du diable dans cette boucherie, ça se trouve qu'on a mal nettoyé certains instruments, peut y avoir tout un tas de raisons. Mais comme, je connais pas le résultat de cette enquête-là, mais c'était une des possibilités, en tout cas, qu'il y ait en cas de forte chaleur, en fait, le halal peut y avoir un risque sanitaire à cause de ce que je viens de vous décrire.
Donc on attendra les résultats de cette enquête, mais je pense que ça ne fera pas grand bruit. Il y a une scène dans votre enquête qui m'a aussi particulièrement frappée. À Brest, le 13 février dernier, l'ouverture à Brest, dit à nos auditeurs, l'ouverture d'un nouveau Quick qui attire 3200 clients, je dis bien, une seule journée, 3200 clients, à Orvault, près de Nantes, qui est quand même pas une mégalopole. Des gens font 1h30 de file d'attente et sur place, des clientes expliquent sans détour qu'elles sont venues pour la viande halal. C'est le seul fast-food halal du département, à ce que vous nous disiez. Quick communique aussi sur la nostalgie aussi, sur Eric et Ramsey, pour nos éditeurs de Radio Courtonie qui connaissent, sur les burgers Dragon Ball, qui sont des burgers historiques, on va dire. Mais ce que ces files d'attente révèlent, c'est autre chose. Comment vous lisez ce décalage, vous, entre la communication officielle, le côté nostalgie, et en fait la réalité du terrain qui dit « bon, on vient là parce que c'est halal, quoi ».
Oui, alors il y a deux choses. Quick, dans sa communication, vise vraiment les jeunes, voilà, en faisant, vous le dites, hein, en rappelant les hamburgers halal, Eric et Ramzy, ça rappelle l'époque de H, ça voilà. rappelle tout ça. Et en plus, Eric et Ramzy, c'était des têtes d'affiche de Quick déjà dans les années 90 ou
voilà.
au début 2000.
Disons que c'est pour nos utilisateurs qui n'auraient pas suivi tout ça, c'est plutôt les années, moi je dirais 90.
Ouais, plutôt 90.
Donc la nostalgie actuelle c'est des ça. Années 90.
Donc il va y avoir quand même une partie des faut le dire, il y a quand même une partie de la clientèle qui vient pour ça, mais en tout cas quand le reporter qui était sur place est venu interroger sur place les gens pourquoi vous êtes là, il y en a qui se sont pas cachés, ils disent bah, c'est halal, moi je suis là parce que en dehors des kebabs, je n'ai pas de restauration rapide halal à côté de chez moi, donc je viens là pour ça. Donc voilà.
On va aussi rappeler, pardon, encore une idée qui court, c'est que tout ça, c'est réservé aux banlieues et aux grandes villes. Et là, vous faites la démonstration qui glace aussi le sang, c'est que le halal arrive, est arrivé, même on peut dire, dans nos territoires ruraux. C'est une partie de votre enquête qui, finalement, a sans doute le plus de force de révélation, hein, c'est ce que vous montrez sur les territoires ruraux. On a longtemps dit que le halal était un phénomène de banlieue, de quartier à forte population musulmane. Et vous, vous montrez que c'est fini. Et vous citez, et là je veux que les auditeurs écoutent bien, la Creuse, qui n'est même pas un territoire surpeuplé, l'Orne, l'Aisne, l'Alsace rurale. Alors, prenons par exemple Guéret, chef-lieu de la Creuse, qui est le symbole de la France dépeuplée et oubliée finalement.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est vraiment, si vous avez une ville, c'est celle-là. En 2013, un projet d'abattoir halal industriel avait provoqué une levée de boucliers, manifestations, etc. La pression avait fini par faire capoter le projet. Et puis, 10 ans plus tard, une première boucherie halal, vous nous racontez dans votre enquête dans Frontières, s'apprête à ouvrir discrètement sans que personne n'organise de manifestation. Ils ont compris, ils ont peut-être changé leur politique. Qu'est-ce que ce basculement dit de l'évolution de la société finalement en juste 10 ans?
C'est ça, il y a un basculement incroyable, donc il est toujours en projet, hein, j'ai vérifié,
d'accord.
C'est pas encore ouvert, c'est toujours en projet, mais elle va s'installer. C'est juste en fait, il y a 10 ans, ce genre de sujet provoquait des manifestations, les gens s'insurgeaient, et maintenant les gens se sont complètement accoutumés. Le projet, j'ai pas vu qu'il y avait une levée de bouclier particulière, c'est en train de se faire. Voilà.
C'est le match est perdu.
Bah,
la population
la première, c'est quand même c'est quand même un signe quoi, c'est quand même la première boucherie halal en Creuse là, vous avez tout dit, hein.
Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Alors à Flers aussi dans l'Orne, hein, la nouvelle boucherie halal qui a ouvert le 5 juin 2025. Alors elle a bénéficié, ça va faire plaisir à nos auditeurs de Radio Courtoisie, d'une subvention de 5000 euros de l'agglomération. Ouais. Dans le cadre d'un dispositif de revitalisation commerciale. Ce dispositif existe pour réouvrir des commerces, hein, ce qu'on peut entendre dans des zones en déshérence et de ce qu'il y en a en France. Est-ce que les élus locaux avaient confiance qu'ils subventionnaient une boucherie halal et est-ce que vous avez pu en savoir plus là-dessus? Qu'est-ce
Alors, j'ai contacté les personnes en charge du dossier à l'agglomération de Flers, Flers Agglo. Ils ne m'ont pas répondu, mais en tout cas, ils ont été contactés. Et je pense que la réponse est que eux me répondraient, je pense, qu'ils sont là pour soutenir les projets d'ouverture de commerce pour redynamiser le centre-ville. Mais encore une fois, c'est un projet qui comporte du halal, il y a une partie cultuelle quand même. Il y a quand même une atteinte à la laïcité. Donc,
Oui, tiens, on n'en a pas encore parlé de la laïcité.
La laïcité à double vitesse. Enfin, je veux dire, je ne vois pas pourquoi une boucherie halal, enfin un restaurant halal pourrait bénéficier de subventions, alors que j'imagine que, je ne sais pas, moi, n'importe quel autre l'autre commerce, je ne sais pas moi, chrétien, catholique, est-ce qu'il pourrait bénéficier de la même subvention? J'en sais rien. Encore une fois, on n'a pas répondu à mes questions. Moi, j'adore. Je pose les questions, je contacte toujours les gens, mais quand on ne me répond pas, je ne peux pas tirer mes propres conclusions.
Ou alors la réponse veut peut-être dire beaucoup.
Ouais.
Bon, il y a aussi dans votre enquête, et c'est là qu'on en a déjà parlé en début d'émission, mais sur la façon de faire, elle est très révélatrice. Un moment que je trouve particulièrement fort, la relecture de la polémique Fickenkraut, en fait, 2014.
Celle-là me fait sourire.
Ouais. Donc, on est en 2014. En avril de cette année-là, sur Europe 1, il dit, le philosophe Fickenkraut dit que la boucherie de Villers-Cotterêts est devenue halal. Le Nouvel Observateur monte au créneau. Ce sont des fact-checkers. Je vais arrêter de parler d'anglais. Voilà, fact-checkers. Il le ridiculise.
Oui.
Et il dit « pas l'ombre d'un label halal en ville ». Fickenkraut s'est fait berner. 11 ans plus tard, en juillet 2025, label Côte Boucherie Orientale Halal, je donne le nom, hein. Label Côte Boucherie Orientale Halal ouvre ses portes à Villers-Cotterêts. Donc vous écrivez que ce qui était passé pour un fantasme finalement d'un vieux réac, hein, le pauvre, et que je crois qu'il s'est fait rhabiller, s'affiche en 2025 comme une vraie réalité de terrain que tout le monde ça. Peut aller voir et constater. Alors, ce que vous avez cherché à joindre, est-ce que vous avez cherché à joindre encore une fois le journaliste du Nouvel Obs? Est-ce qu'il a fait ses excuses? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il a réhabilité le philosophe en question qu'il avait ridiculisé?
Il faut bien repréciser, c'est que c'est un moment où Villers-Cotterêts passe au FN de l'époque.
Oui.
Et les journalistes se sont un peu interloqués et tentent d'expliquer sur le plateau, mais pourquoi? Et alors, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, le restaurant Savoyard, il est passé, c'était un kebab. L'ancienne école, c'est devenu une mosquée. Et il y a une boucherie halal. Alors là, le fact-checker s'empresse et dit, ah non, mais pas du tout. Alors déjà, il n'y a pas de mosquée, c'est une salle de prière. Donc voilà. Ça, j'aime bien. Quand on fact-check, j'adore. Ouais, c'est pas une mosquée, c'est une salle de prière. Ouais, bon, une immense mosquée pour un si petit bourg, ce serait peut-être un peu trop gros. Mais donc non, déjà, c'est une salle de prière. Et oui, ok, le restaurant Savoyard, c'est un kebab, mais en même temps, les gens sont contents. Et
ils ont remplacé le fromage.
Voilà, il y a un petit sujet, voilà. Qu'est-ce que vous pensez dans le voisinage? Oh, c'est bien, pourquoi pas, après tout. Donc, les gens sont contents, donc c'est pas grave. Et effectivement, je sais pas ce qui s'est passé à l'époque, il n'y avait pas de boucherie halal, mais il s'est trompé, il n'y a pas de boucherie halal. Tout en minimisant les deux autres aspects. Et là, on le tourne en ridicule, et encore une fois, 10 ans plus tard, c'est vrai. Bon, encore une fois, on ne me répond pas quand je pose la question. C'est ce que je décris, c'est que on ridiculise les lanceurs d'alerte il y a 10 ans, quand ils ont raison. On n'en parle pas, on n'en parle plus.
C'est enterré, c'est fait. Hein.
C'est accepté, c'est fait. Alors, soit ça pose pas problème, si ça pose problème, on l'ignore. Donc comme ça, c'est ce que vous dites, c'est perdant-perdant constamment. Quoi.
Alors, vous évoquez aussi Besançon, quartier de la Planoise, hein, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui y connaissent. Donc c'est 20 000 habitants et vous décrivez un territoire où toutes les boucheries sont halal, où 2 supermarchés orientaux ont ouvert en l'espace de quelques mois, dont un de 3000 mètres carrés, rien que ça, avec une boucherie halal de 200 mètres carrés. Et vous posez la question explicitement dans votre enquête, Lauriane Bernard, c'est dans 5 ans, sera-t-il encore possible de trouver autre chose que du halal dans ce quartier? Est-ce que vous avez des éléments de réponse?
J'en sais rien, mais ce qui me dérange vraiment, en fait, au sortir de cette enquête, c'est le manque d'alternatives. C'est qu'encore une fois, si le halal existe, bon, j'ai mes propres réserves, mais que va-t-il se passer quand certains endroits, il n'y aura plus d'alternatives et que des gens qui ne sont pas musulmans auront quand même l'obligation de consommer du halal? Parce que ça arrive pour une enseigne comme Quick, ça peut arriver dans d'autres endroits, même plus une enseigne, carrément un lieu.
D'ailleurs, il pourrait être attaqué, j'y pense, pour discrimination.
Oui, complètement. Eh ben, le premier Quick qui avait ouvert halal, alors il me semble que c'était Roubaix, à vérifier, mais il me semble que c'était Roubaix, la ville avait attaqué le Quick en discrimination, la première fois que c'est arrivé.
Ce qui serait normal, hein.
Oui, oui. Et c'était,
mais ce qui donne rien.
Ce qui donne rien, mais c'était le premier réflexe, en tout cas.
Donc
quand
j'invite tous nos auditeurs à aller dans les Quick et à réclamer de pouvoir manger autre chose que du halal.
Il faut pas qu'ils aient faim, parce que le hamburger va mettre du temps à arriver, mon avis. Mais
Exactement. Alors aussi, ce qui est encore plus triste, vous évoquez aussi le vieux lion, pour ceux qui connaissent, la rue Saint-Jean, temple de la gastronomie lyonnaise, où un bouchon s'affiche désormais sous label halal. C'est peut-être l'image la plus symboliquement forte de votre enquête. Hein.
Oui, j'ai trouvé Lyon au lieu de la gastronomie française. Voilà, maintenant, il y a des bouchons qui sont certifiés halal. Je ne pensais pas voir ça un jour, honnêtement. Hein, mais bon, s'il y a des auditeurs qui habitent Lyon et qui ont des retours d'expérience sur ce restaurant,
halal s'adapte. Hein.
Le halal s'adapte, effectivement.
Il y a une chose, et merci à l'auditrice qui me pose la question. En fait, le halal, on n'a pas parlé de la taxe, en fait, halal.
Oui, oui, oui.
En fait, le halal, ça sert aussi à financer quelque part l'islam.
Oui,
il y a un aspect financier, c'est-à-dire.
Exactement.
Voilà, il y a une taxe, je ne sais pas comment vous appelez ça.
Oui, il y a une taxe.
Je pense que quand l'imam se déplace pour accomplir ce qu'il faut pour que
des rites, ouais.
Voilà, des rites. En plus de tout, il y a un aspect financier fait que. Voilà. Alors, moi, on m'avait dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, ça déborde de votre enquête, que les abattoirs en région parisienne étaient quasiment tous halal.
Alors, je pense qu'ils ont des jours halal.
Ils ont des jours halal,
c'est très opaque. Hein. Mais il y a des jours dédiés au halal et on ne sait pas forcément quand.
Et donc, on peut tout à fait manger du halal, ou notre boucher du coin ne peut aussi ne pas savoir, comme les agriculteurs, vous le disiez, ouais, ne le savent pas.
Moi, il y a un angle mort qui m'intéresse sur le halal, et c'est vraiment à creuser, c'est que parfois, la viande halal est moins chère que la viande non halal. Et ça, ça m'intrigue. J'aimerais savoir et comprendre pourquoi et à qui profite le crime.
Voilà. Exactement, encore bah, plein vous viendrez nous en parler. Vous aurez à nous en parler parce que c'est intéressant. Mais n'oublions pas quand même que ça sert au financement de l'islam.
Oui.
Parce que ça n'avait pas été dit. Alors, il y a un schéma qui revient comme un fil rouge hein, dans votre enquête. On raille d'abord, on nie ensuite, puis on fait comme si de rien n'était. Une fois que la réalité s'est imposée. Ça, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez démontré. Alors, ce schéma, vous l'observez dans la presse, dans la classe politique, dans les institutions. Pourquoi ce déni si persistant, selon vous, lâcheté politique, forme de censure idéologique, simplement la peur d'alimenter l'extrême droite ?
Un peu tout à la fois.
Il y a des LR, par exemple, qui s'emparent un peu du sujet aujourd'hui ou ça...
Moi, je n'ai pas vu de LR s'emparer. Enfin, même ORN, en réalité, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment rentré dans le... On le dénonce encore une fois, mais je ne vois plus d'action politique qui s'oppose frontalement. Voilà, vous parliez...
Ce qui est triste. Hein.
Oui, vous parliez de l'abattoir halal qui était censé ouvrir à Guéret. Là, on a vu des manifestations, on a vu des gens s'opposer. Maintenant, je vois beaucoup de gens peut-être protester sur les réseaux sociaux ou le dénoncer. Ou voilà. Mais je ne vois plus d'action politique ou même d'action citoyenne. J'ai l'impression que la population est complètement accoutumée. Et finalement, ceux qui sont non musulmans et qui ne veulent pas consommer de la viande halal se disent bah, « je n'irai pas ». Mais en fait, on se rend compte que ça gagne du terrain.
Et finalement, ça rentre dans les cerveaux comme
oui,
quelque chose
ça.
De classique.
C'est ça.
C'est bien tout le problème. Mmh. Et pour nos jeunes, par exemple, qui n'auront connu que ça, ouais. Manger halal ou pas, pour eux, ça va être pareil.
Voilà, et ils ne voient peut-être pas ce que ça implique derrière, les problèmes sanitaires ou les problèmes de maltraitance animale, hein, j'insiste, la bête souffre. Voilà.
Ou les problèmes de financement aussi de l'islam et peut-être, si on élargit, pourquoi pas, de l'islamisme. Alors, vous êtes journaliste de presse écrite, est-ce que vous avez rencontré des résistants, je suppose que non, dans votre rédaction pour écrire cette enquête, mais quand vous avez essayé de prendre vos sources, est-ce que vous avez senti qu'il y avait des réticences à communiquer là-dessus ?
Oui, généralement, je vous dis, la technique, c'est de ne pas répondre. C'est de ne pas répondre, les questions dérangent, donc on répond pas.
Alors, ouais, j'avais entendu, où est-ce que j'avais vu ça, que c'était, oui, c'était Frédéric, le PDG de Quick, Frédéric Levaché, qui disait que, j'adore le langage technico-marketing, la protéine halal, vous avez l'impression que vous allez vous enrichir, c'est presque de la vitamine, attention.
C'est ça, c'est le langage technocratique
voilà. D'aller
habituel.
Manger de la protéine halal, ouais. C'était incroyable. Et puis évidemment, tout ce qui est souffrance alimentaire. Alors, vous présentez dans un encart également l'application Suivez le Coq, lancée par Alain Peretti, que nous avons en ligne, vétérinaire et président de l'association Vigilance Halal. Mais avant ça, on va écouter le Bobino de Radio Courtoisie.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, à nouveau bonjour et aux auditeurs du Libre Journal de la Liberté de Penser, je reçois en première partie d'édition Lauriane Bernard pour son enquête dans le magazine Frontières sur le halal et j'ai en ligne, et nous avons en ligne, le docteur Alain de Peretti. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ?
Là, c'est bon, on vous entend bien. Et si ce n'était pas le cas, je vous dirais. Mais la technique ne me fait pas de grand signe, donc ça marche.
Bon.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, M. Peretti, d'entendre la première partie.
Oui, ok, d'accord.
Vous avez entendu la première partie ? D'accord. Alors, pour nos auditeurs...
Alors, j'ai entendu un petit bout. hein, parce que j'avais une activité, donc je me suis connecté, enfin, bon, dès qu'on m'a appelé. Donc, je n'ai pas tout entendu. Ce que j'ai entendu me semble de tirer du bon sens. Tout à fait. Alors,
je vais d'abord vous présenter pour nos auditeurs de Radio Courtoisie qui ne vous connaissent pas. Vous êtes Alain de Peretti, vous êtes vétérinaire et vous êtes président de l'association Vigilance Halal et d'une application.
Président fondateur depuis 2012 et on se bat sur tous les fronts, y compris judiciaires, puisque le halal ne respecte absolument aucune législation et n'est absolument pas encadré. Parce que, pour toutes sortes de raisons, qui ont été en partie évoquées d'ailleurs par
Lauriane Bernard, elle était rentrée en contact avec vous l'été dernier, quand elle a fait cette belle enquête aux frontières. Et je voulais aussi que vous nous parliez de Suivez le Coq, l'application Suivez le Coq. Ça m'intéresse d'en savoir plus et nos amis auditeurs aussi, s'il vous plaît.
Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est un peu un résultat de cogitation, etc., puisque on se rend compte que la nourriture, d'une manière générale, est un marqueur identitaire très fort. Il suffit de voir les débats enflammés autour du canon français pour se rendre compte que c'est pas un point de détail, hein, bien entendu. Et le halal fait partie de ce combat culturel pour notre identité, puisqu'il faut le refuser aussi à ce titre-là, au titre identitaire. Hein, c'est contraire à notre identité. Alors, l'application Suivez le Coq consiste à repérer ou à faire pression sur votre boucher pour lui demander l'origine, l'abattoir d'origine de la viande qu'il commercialise. Parce que beaucoup de bouchers n'y font pas attention. Et vous avez à l'heure actuelle plus de 60% des abattoirs qui ont la dérogation pour abattre halal et qui, évidemment, outrepassent cette dérogation. On a fait beaucoup d'actions en justice sur ce plan-là, sans obtenir d'ailleurs aucun résultat. On avait des preuves, il y avait même des preuves avec vidéo, d'abattoirs qui abattaient donc tout en halal, hein. Tout à l'heure, Lauriane a exposé qu'il y avait des jours pour le halal. C'est pas vrai. Le halal, c'est une notion finalement assez floue et qui est la conjonction du mercantilisme et de l'obscurantisme. Hein. Y a une clientèle, donc il faut le faire.
Oui, ça, c'est ce qu'on a vu.
Un abattoir qui abat donc de façon, j'appelle ça traditionnel, mais ça me plaît pas comme terme, norme normale, si vous voulez. Mais il y a un imam derrière qui vient certifier la viande pour donc c'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. Les imams ne se déplacent pas pour bénir la viande, pour la c'est automatique, il y a le tiroir caisse qui se remplit.
Mais c'est ça, il y a une taxe, hein, c'est ce que j'ai essayé de rappeler. Alors, c'est qu'il y a un aspect financier.
Oui, il y a un aspect financier. Un aspect financier qui a été reconnu par notamment l'imam de la mosquée de Lyon, hein, le recteur Kamel Kaptan, hein, il reconnaissait 10 à 15 centimes du kilo. Mais c'est pas quelque chose qui est dans les règles, si vous voulez. C'est dans le non-dit, c'est la zone d'ombre, la zone sombre. Et j'entendais aussi tout à l'heure pourquoi la viande halal est moins chère, parce que ça, il y a une explication qui est à mon avis évidente, qui mériterait là aussi d'être prouvée par les services de l'État, mais qui ne feront rien évidemment pour l'instant, sans pression politique, c'est que les boucheries halal sont aussi des lieux de blanchiment de divers trafics, s'il leur permet d'avoir des tarifs plus intéressants. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, hein, on l'a dit aussi des kebabs. Hein.
Pour les kebabs aussi, oui, bien sûr.
Alors, parlez-nous de votre application Suivez le Coq, parce que ça intéresse nos auditeurs. Comment faire pour savoir ce que l'on mange?
Alors, bon, elle est gratuite. Elle est gratuite. Vous allez sur votre application, vous ayez
un iPhone, c'est pareil.
Donc, vous téléchargez l'application et ensuite, vous avez, donc, elle s'ouvre quand vous en avez besoin. soit vous, vous flashez donc le code de l'abattoir qui figure normalement sur les barquettes quand vous achetez en supermarché, ce que je vous déconseille, il vaut mieux faire travailler les bouchers artisanaux, ça c'est une première chose. Vous flashez donc ce ou vous le rentrez à la main. Donc ce code se compose d'abord de lettre FR, c'est-à-dire ça veut dire que l'animal a été abattu en France.
Hein, oui. Avec, FR, oui.
FR. Ensuite, il y a le numéro du département. Et ensuite, vous avez six autres chiffres, c'est-à-dire huit en tout, avec des numéros d'ordre, hein, des numéros qui sont attribués à chaque abattoir. Ces abattoirs, donc, nous, on les a répertoriés, on a croisé ça avec la liste qui est fournie par l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui a à jour une liste. On l'a croisée avec nos propres renseignements, puisqu'on essaie de se renseigner par divers canaux, hein, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a une grande opacité.
Oui, ça, on l'a bien relevé avec Lauriane Bernard dans notre studio, parce qu'elle l'a rencontré. Pendant son enquête, et puis de toute façon, tout est opaque. Même quand on va chez Quick, qui est maintenant 100% halal, on ne peut pas dire que ça saute aux yeux, hein, le fait que ce soit halal.
Non, non, bien sûr, bien sûr.
Et c'est fait pour.
Et voilà, c'est fait pour, tout à fait. Et donc, vous avez, une fois que vous rentrez ces numéros, qui doivent être fournis par votre boucher, vous lui demandez, hein, gentiment, vous dites, voilà, moi, je ne veux pas manger du halal. Est-ce que, mais moi, ma viande, elle est française, en général, ou dans des restaurants. Elle est française, mais elle peut être française
et halal, visiblement, c'est la démonstration de l'émission. Malheureusement.
Voilà. On a tous mangé du halal sans le savoir.
Ouais.
Et à ce moment-là, donc, vous rentrez ce numéro, vous savez si l'abattoir est soit, disons, traditionnel, c'est-à-dire en fait, qui respecte les normes modernes, en fait, modernes, hein. Le reste, c'est des usages antiques et encore même pas de chez nous, en plus. Ou s'il est mixte, s'il fait du mixte, donc il est suspect. À mon avis, il vaut mieux les blacklister, ceux qui font du mixte, parce qu'il y a. Effectivement, il y a certains abattoirs qui font du mixte parce que au moment de l'Aïd el-Kibir, ils sont obligés par la préfecture d'accepter des animaux. Hein, c'est le seul moment où ils abattent halal. Donc ça,
ils sont obligés par la préfecture. On les force.
Oui. Bon. On les force. Voilà. Tout
magnifique.
À fait. Voilà. Magnifique. Mmh. Et ensuite, vous avez les abattoirs totalement halal, hein, qui sont marqués. Évidemment, ceux-là, il faut les éviter comme la peste, pour toutes les raisons, souffrance animale, problèmes sanitaires. Il y a eu à Saint-Quentin dans l'Aisne.
Oui, on en a parlé avec Lauriane Bernard. Oui.
Vous en avez parlé. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, quelque chose. Et d'ailleurs, le détail que toutes les boucheries qui ont été fermées étaient des boucheries halal, a été largement occultée par la presse.
Et hein. Vous n'aurez pas de retour, c'est ce qu'on disait avec la journaliste de Frontières dans notre studio, vous n'aurez pas de retour de toute façon de l'enquête.
De l'enquête,
on
exactement.
Saura rien.
Nous, on a réclamé à corps et à cri, on a fait plusieurs courriers pour avoir des détails, et on n'a pas pu en avoir, parce qu'évidemment, c'est tabou. Hein, c'est comme l'origine des casseurs de postes PSG. Hein, c'est
les Anglais, monsieur, des Anglais.
Les Anglais.
Voilà, alors, la chose à retenir pour nos auditeurs, pour qu'ils en sachent un peu plus, c'était pour ça aussi que je voulais m'entretenir avec vous, à télécharger l'application Suivez le Coq. C'est pas compliqué, voilà, hein, vous leur avez bien expliqué comment faire.
Voilà,
et puis, vous saurez si vous mangez halal ou pas.
Voilà. Alors, c'est un moyen d'ailleurs d'être des consommateurs, hein. C'est-à-dire que votre boucher artisanal, il n'a pas peut-être forcément prêté attention. S'il est sensible à ça, vous dites, vous devriez adhérer. C'est gratuit à Suivez le Coq, au réseau Suivez le Coq. Vous allez gagner des clients. Parce que on a des témoignages de bouchers qui ont gagné des clients parce qu'ils étaient sur
le réseau. Mais ça, je vais
le
faire. Comptez sur moi. Je vais aller voir mon boucher à Versailles, place du marché. Je ne le citerai pas, mais qui se bat pour ne pas vendre de halal. Je pense qu'il connaît l'application.
Ouais, donc, il va gagner des clients parce que les gens vont le retrouver. Ça entre dans notre application. Il y a donc les abattoirs et il y a aussi les bouchers. Alors. On a malheureusement pas fait le tour de tous les bouchers parce qu'il y en a d'abord beaucoup et beaucoup d'ailleurs on les incite à être acteur, parce que beaucoup font le gros dos, si vous voulez. Ils veulent pas paraître, vous savez, le grand tabou de la stigmatisation, etc. Mais on se stigmatise pas, on est fier de ce qu'on est. Eux, ils sont fiers d'être halal, soyons fiers d'être non halal. Et puis, point barre, c'est quelque chose d'évident. Ça fait partie de nos traditions, puisque les animaux sont étourdis chez nous depuis la nuit des temps. Même chez les Grecs, on étourdissait les animaux avant de pour les abattre. Hein. Donc, au Moyen-Âge aussi, il y a des gravures qui montrent qu'on étourdissait les animaux.
Et puis qu'au moins on soit au courant, c'est ce qu'on disait en début d'émission avec la journaliste de Frontières, Lauriane Bernard, c'est qu'au moins soyons au courant de ce que l'on mange. D'avoir l'information qui soit à notre portée, avant qu'on s'habitue tous finalement à ne plus manger que du halal. voilà,
parce que justement, ça, j'ai entendu cette partie, on s'accoutume et c'est un jugement personnel que... Donc je partage, que vous pouvez partager aussi. C'est-à-dire que le halal, comme le voile, comme le ramadan, etc., sont des éléments du soft power de l'islam, hein, qui complètent le hard power du djihad violent, pour nous accoutumer peu à peu à la charia dans notre société. Et ça, c'est insupportable et intolérable. On ne doit pas le tolérer. La charia est incompatible avec notre société, donc...
Ne devenons pas des dhimmis, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Alain de Peretti. Alors, les auditeurs me demandent, mais on retrouvera tout sur le site de Radio Courtoisie, hein, donc l'application, vous êtes vétérinaire, je le rappelle, et vous êtes le fondateur initial, hein, de l'association Vigilance Halal. C'est ça, vous qui l'avez fondé, peut aussi retrouver sur le net, et j'encourage les auditeurs à y aller. Et puis d'en parler à leur boucher, tout simplement, pour faire cesser l'omerta et le fait qu'on mange du halal sans le vouloir, en tout cas. Voilà.
C'est une action pacifique de consommateur et de
respect de l'animal.
Qui permettra respect de l'animal et de mettre la pression sur l'ensemble de la filière de la boucherie.
Hein, voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention, Monsieur de Peretti. Merci à vous.
Avec plaisir.
Merci, au revoir. Alors, on va terminer cette émission, Lauriane Bernard, c'était intéressant. Ça confirme ce qu'on disait, c'est que tout ça se fait en sous-main. Votre enquête, Lauriane Bernard, se termine par une phrase que je veux citer précisément, hein, que vous avez mentionnée. Le halal finit dans certains endroits par ne plus laisser d'alternative, c'est une formulation que vous avez pensée, j'imagine. Ce n'est pas impose, mais c'est presque envahi. Vous dites ne plus laisser l'alternative, c'est-à-dire plus le choix, plus de liberté. On est dans le libre journal, la liberté de penser, on n'a plus la liberté de manger, finalement, comme on le souhaite.
Aujourd'hui. Oui, c'est ça. Encore une fois, cette enquête, c'est vraiment pour prouver que certains endroits, dans quelques temps, et c'est déjà le cas, un jour, on n'aura plus d'alternative de ne pas manger halal.
Alors, je remercie les auditeurs qui ont réagi. Hein, pour certains, vous retrouverez toutes les informations sur le site de Radio Courtoisie. Puis, j'ai une auditrice qui cite Saint-Augustin. On va finir là-dessus pour élever l'âme. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Alors, merci à vous, Lauriane Bernard. On pense au magazine Frontières, dont on aime bien faire la promotion. Revenez nous voir quand vous aurez d'autres éléments d'information sur ce sujet ou sur un autre.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Alors, j'accueille dans notre émission, le Libre Journal de la Liberté de Penser, mon deuxième invité. Je l'ai mentionné en introduction. Il s'agit de Yves Sevilla, qui est journaliste politique à Boulevard Voltaire. Merci.
Absolument.
En tout cas de vous être déplacé jusque dans nos studios. Merci à vous.
Yves-Marie,
J'ai évité le mari, je ne savais pas s'il fallait le dire.
Alors, si c'est un prénom composé dont je suis fier.
Voilà, Yves-Marie Sevilla, journaliste à Boulevard Voltaire, journaliste politique même. Vous avez suivi, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir aujourd'hui, vous avez beaucoup suivi l'audition en tout cas, et la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, hein, qui a été menée en partie par Charles Aloncle. Et je voulais vous entendre aujourd'hui nous en parler avec un peu de recul, puisque maintenant on sait que le rapport est publié. D'ailleurs, il l'a été largement. Il a fait sauter le site de l'Assemblée nationale, hein, c'est ça, quand il est paru. Ça veut dire aussi que les Français ont soif d'informations, et c'est tant mieux. Donc, en novembre 2025, l'Assemblée nationale crée une commission, je rappelle un peu hein, pour nos auditeurs l'historique, une commission d'enquête parlementaire sur, je cite, la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Donc, c'est vraiment le cœur central de cette commission. À sa tête, un président dont finalement on a moins entendu parler, mais on va essayer d'en parler un peu avec vous, qui est Jérémy Patrier-Létus, c'est ça, je prononce bien ?
Absolument,
oui. Il est député Horizon, le parti d'Édouard Philippe, un homme du centre, on va juste dire ça, et un rapporteur, Charles Alloncle, député UDR, c'est-à-dire le parti d'Éric Ciotti, un homme qui appartient donc à l'UDR. Un député, hein, je vois ce que j'ai dit. C'est lui qui va mener les travaux, qui va conduire les auditions, qui va rédiger le rapport final. Et pendant 6 mois, cette commission va devenir, et les auditeurs de Radio Courtoisie ont très certainement suivi, tout comme vous, le théâtre le plus regardé finalement de la vie parlementaire française. Hein. Sous serment vont défiler des visages très connus du paysage audiovisuel, un sacré casting. On aura Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, que finalement on ne connaissait pas tant que ça. Sybille Veil, patronne de Radio France. Les présentateurs Léa Salamé, Laurent Delahousse, les journalistes Élise Lucet, Hugo Clément, les animateurs Nagui, Michel Drucker, Patrick Sébastien, les patrons de presse, Xavier Niel, Vincent Bolloré lui-même, et la plupart de ces auditions donnent lieu à des échanges d'une violence assez rare. Le 27 avril 2026, après 5 heures de débat tendu, le rapport est adopté de justesse, 12 voix pour 10 contre, donc 2 voix de moins et il n'existait pas. On s'est quand même posé la question, ce qui est quand même déjà un peu incroyable. Et le 5 mai, il est mis en ligne, le site de l'Assemblée nationale s'effondre sous les téléchargements, 550 pages, je les ai parcourues hier, 69 recommandations et un avant-propos du président Patrier-Létus qui prend ses distances avec certaines méthodes employées pendant les travaux. Alors depuis, la bataille continue, aussi bien sur les chiffres, sur les faits, sur ce que le rapport dit vraiment et sur ce que ses adversaires prétendent qu'il dit. C'est cette bataille que nous allons explorer, Yves-Marie Sevilla, journaliste politique à Boulevard Voltaire, qui vous avez suivi, je pense, cette commission du premier au dernier jour. En tout cas, on retrouve pas mal de vos papiers dans Boulevard Voltaire et j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à suivre les chroniques dans Boulevard Voltaire à l'occasion. Alors, vous avez suivi cette commission d'enquête 6 mois sur un seul dossier. Finalement, qu'est-ce qui... Enfin, sur ce dossier en tout cas, pas sur un seul, je pense que vous avez d'autres sujets, mais qu'est-ce qui vous a accroché dans ce sujet-là en particulier ?
Écoutez, effectivement, pour Boulevard Voltaire, j'ai suivi de près l'ensemble des auditions. Alors, je ne peux pas prétendre les avoir absolument toutes suivies, mais en tout cas, je pense que de façon très précise, je les ai écoutées avec environ les 2/3. Donc, en tout cas, pour les principales. Ce qui semblait tout à fait évident et marquant, et de toute façon, je pense que rares sont les auditeurs de Radio Courtoisie à n'avoir pas entendu parler d'éléments de cette commission. Voilà, ce qui était frappant, c'est un, de montrer que l'argent public, puisque rappelons-le, effectivement, le budget par exemple de France Télévisions, c'est 4 milliards d'euros, que l'argent
annuel,
que l'argent public était géré de façon désastreuse. France Télévisions, effectivement, accumule les déficits, contrairement à ce qu'a pu avancer sa présidente. Deuxièmement, la flagrance du non-respect de neutralité de l'audiovisuel public. C'est-à-dire effectivement que dans la mesure où les impôts des Français payent un audiovisuel public, ils sont en droit d'attendre une relative neutralité de ce service public, c'est-à-dire effectivement une neutralité, une impartialité, que ceux qui s'expriment, et notamment les journalistes qui s'expriment au sein du service public, puissent annoncer les faits de manière neutre, et que enfin, compte tenu de la représentativité des forces idéologiques en France, qu'il y ait une représentation ajustée de la droite, de la gauche, du centre au sein du service public.
Ce qui est loin d'être le cas.
Ce qui est loin d'être le cas. Et effectivement, la commission a démontré à de nombreuses reprises qu'il y avait de graves manquements à cette obligation de neutralité et d'impartialité.
Alors quand Charles Alloncle, qui n'était, il faut l'avouer, pas très connu hein, du grand public, a été désigné rapporteur en novembre 2025, est-ce que vous aviez mesuré, vous, d'emblée, l'ampleur politique et la violence aussi des réactions qui allait suivre pendant ces six mois d'enquête.
En tant que journaliste, je dirais que je n'avais pas forcément mesuré l'ampleur de ce qui allait se produire. C'est-à-dire qu'en fait, comme journaliste politique, je suis l'activité parlementaire et des commissions d'enquête, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, il y en a des dizaines, chaque année. Mm. On pourra y revenir. Chacune, à la fin, aboutissent à un rapport. On entend assez peu parler des différents rapports parlementaires. Mmh. Ils servent au travail parlementaire, voilà, des élus, des sénateurs, des députés. Et éventuellement, les cabinets, les gouvernements peuvent reprendre certaines idées. Hein. Effectivement, c'est le but de ces rapports. Mais d'habitude, avouons-le, les travaux d'une commission et les rapports finissent généralement un petit peu aux oubliettes. Mmh. Ça, c'est un point. Donc, on ne pouvait pas imaginer un tel chamboulement. Je pense que ce chamboulement, il est dû au travail, et il a été maintes fois souligné, méticuleux, travail de Romain, l'expression a été employée par Caroline Parmentier, députée du Rassemblement National, membre de cette commission, parce que Charles Alloncle a acculé les personnes auditionnées à prouver dans certains cas, effectivement, et souvent, qu'elles étaient dans le faux, qu'elles avaient tort. C'est-à-dire que généralement, que ce soit sur un plateau de télévision ou en une audition, on connaît bien l'exercice. Il fait partie du talent, quelque part, ou en tout cas de la qualité nécessaire à un politique d'esquiver les questions et d'arranger sa réponse. C'est-à-dire qu'on vous pose une question qui vous dérange, vous vous arrangez pour répondre comme vous voulez. Mais le fait que ça a été systématique. Charles Alloncle, le rapporteur, renouvelle deux fois, trois fois, quatre fois parfois, quitte à en être relativement pénible pour ceux qui étaient auditionnés, voire même ceux qui écoutaient l'audition. Mmh. Il y avait un caractère répétitif.
Mais calme.
Mais calme, toujours dans le calme, bien sûr. Il contraignait les personnes auditionnées à démontrer qu'elles ne voulaient pas répondre.
Oui, et puis c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur pose ce genre de questions.
Pas forcément. Enfin, que ce soit les politiques ou même les souvent c'était aussi des journalistes qui étaient interrogés.
Ou des animateurs.
Ou des animateurs. Ils sont quand même vraiment rompus à la parole publique. Donc ils sont habitués quand même à être questionnés, à devoir rebondir sur un plateau de télévision. Donc je pense que l'essentiel du succès de cette commission a été le travail précis, le questionnement répétitif de Charles Alloncle, qui a démontré, puisque beaucoup de Français ont pu voir une multitude d'extraits sur les réseaux sociaux d'audition, que la personne auditionnée ne souhaitait pas vraiment répondre à la question. Et in fine, on comprend bien qu'il ne répond pas, consent, et ça validait les propos de Charles Alloncle.
Alors, donc, comme je l'ai dit, il y a un président qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Jérémy Patrilétus, c'est ça. On a beaucoup parlé de Charles Alloncle, mais la commission avait aussi un président, qui est un député Horizon. Bon, alors, évidemment, ça n'avait pas forcément rêvé, mais il est quand même député Horizon, et c'est le parti d'Édouard Philippe. Donc, c'est un homme du centre. Il a rédigé un avant-propos particulièrement long dans le document final du rapport de 550 pages où il formule ses propres propositions, défend la nécessité d'un audiovisuel public fort et indépendant et regrette que les principes guidant une commission d'enquête n'aient pas toujours été respectés. Moi, j'ai trouvé, et vous allez me donner votre avis, que c'était une manière assez directe de prendre ses distances avec la façon dont Charles Alloncle a mené les travaux. Comment lisez-vous vous-même de votre côté cet avant-propos du président de cette commission ?
Effectivement, Jérémy Patrilétus est député du Calvados, donc il appartient au parti Horizon d'Édouard Philippe, et il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Alors, on a beaucoup décrié son rôle, parce que à travers un certain nombre d'extraits d'audition, on a pu voir un président interrompant le rapporteur, Charles Alloncle, qui s'en est énormément plaint, ou évoquer des positions contraires à celles de Charles Alloncle. Finalement, il était quand même dans son droit. De ce que j'ai pu suivre moi-même et récupérer comme avis des députés de la droite nationale, donc ayant une proximité avec Charles Alloncle, c'est que Jérémy Patrilétus, voilà, a quand même réussi à mener les débats à leur terme, à calmer, à endiguer les ardeurs de la gauche et de l'extrême gauche qui étaient extrêmement virulentes et qui, au cours des auditions, on se souvient, environ à la période de Noël, donc à mi-parcours, il y avait une vraie volonté déjà de censure des travaux de la commission. L'extrême gauche revendiquait son arrêt, revendiquait le huis clos, donc les vidéos des auditions n'auraient pas pu être publiques. Donc voilà,
il a joué son rôle d'arbitre.
Il a
finalement
quand même joué son rôle d'arbitre, je le pense personnellement. Après, effectivement, je n'ai pas trouvé ça très élégant de sa part, parce que il a beaucoup critiqué Charles Laloncle sur le fait qu'il tire la couverture à lui et qu'une commission d'enquête parlementaire n'était pas un théâtre, et finalement en reprochant à Charles Laloncle d'acquérir une notoriété.
Ce qui est le cas.
Travaux, mais ce n'était pas le but de la commission.
Non.
C'est à travers les travaux de la commission,
Charles Laloncle est
devenu quelqu'un de...
Et de son courage, hein, parce que finalement...
De son courage. Donc voilà, donc je pense effectivement que Jérémy Patrilétus a aussi tiré bénéfice des travaux de cette commission. C'est là où je trouve ça moyennement élégant. C'est que vous avez raison de dire effectivement qu'il est moins connu aujourd'hui que ne l'est désormais le député de l'Hérault Charles Laloncle, mais lui, son nom a beaucoup été cité, et lui-même a beaucoup été interrogé, et beaucoup intervenu en plateau télévisé pour commenter les travaux de la commission, et notamment la question du rapport et de sa parution, vous y avez fait allusion, rapport qui, rappelons-le, effectivement, a failli ne pas être adopté, ce qui aurait été un scandale absolu, dans la mesure où jamais, une fois, effectivement, c'est arrivé, mais de manière absolument exceptionnelle, sur les centaines de rapports parlementaires, jamais un rapport n'a pas été validé, publié par les membres de la commission.
Alors, on va essayer de balayer quelques auditions marquantes, si vous voulez bien. Alors, on va d'abord parler de celle de Nagui, hein, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent comme un animateur télé, qui anime un karaoké, ça je cite un peu l'expression de Charles Laloncle avant le journal de 20h sur la 2, France Télévisions. Tout commence en décembre 2025. Charles Laloncle le qualifie publiquement de personne qui s'est le plus enrichie sur l'argent public sur les 10 dernières années, pour des centaines de millions d'euros, hein, selon lui. Nagui répond sur Instagram en l'accusant de sous-entendu raciste, hein, comme d'habitude. Une plainte contre X est déposée. Et le 1er avril, les deux hommes se retrouvent face à face à l'Assemblée nationale. Vous avez certainement suivi cette audition. Alors racontez-nous un peu comment vous l'avez... Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé dans les premières minutes? Nagui, pour les auditeurs, je le rappelle, de Radio Courtoisie, accuse Charles Laloncle de l'avoir jeté en pâture, hein, sur un poste mensonger et indigne, d'avoir déclenché une vague d'injures et de menaces de mort concernant sa famille, de l'avoir mis en danger. Je pense que Charles Laloncle a lui-même reçu, je pense, des milliers de messages absolument horribles. On est dans un face-à-face très personnel, très violent. Est-ce que c'est encore une audition parlementaire à ce moment-là?
Je pense que c'est une audition parlementaire tout à fait légitime. Il se trouve effectivement que Nagui a été totalement vexé, bon, ça peut se comprendre, des propos de Charles Laloncle. Voilà,
sur quoi alors, rappelez, qu'est-ce qui a vexé Nagui? Qu'on dise combien il gagne, hein? Qu'on dise comment il le gagne?
Il faut expliquer
aux auditeurs pourquoi, quand je l'ai dit, il faut l'expliquer, ça se mécanise, pourquoi je dis qu'il profite de l'argent public? Parce qu'il est producteur.
Parce qu'il est producteur et qu'à ce titre-là, il anime des émissions. Effectivement, il est un prestataire
du service public. Qui le paye. Donc nos impôts payent Nagui par le biais d'une maison de production.
Indirectement, il est payé par la maison de production.
Voilà.
Dont il était le fondateur, désormais ce n'est plus le cas, mais la maison de production en l'occurrence le paye, et cette maison de production a des contrats avec Nagui. En l'occurrence, Charles Laloncle par exemple a souligné que à mesure que par exemple les émissions de Patrick Sébastien diminuaient, celles de Nagui augmentaient. Et donc à ce titre-là, Charles Laloncle a voilà, dénoncé la concentration, c'était un des grands éléments des travaux parlementaires, a dénoncé la concentration de l'argent qui va vers un certain nombre de personnes, un petit cercle privé, et qui...
assez concentré, c'est surtout sûrement là-dessus qu'il mettait l'accent.
Tout à fait, mais d'ailleurs, c'est cette concentration, Rachida Dati, ancienne ministre de la Culture, donc le ministère de tutelle de France Télévisions et de l'audiovisuel public, n'a pas caché cette concentration. Elle a clairement évoqué un entre-soi. Donc effectivement, Nagui était révélateur de cet entre-soi qui a été piqué au vif, et sa défense n'a pas été extrêmement élégante, puisque effectivement sur les réseaux et même pendant l'audition, il évoquait avec beaucoup de condescendance le prénom composé Charles-Henri à l'oncle.
Ah d'accord, des attaques personnelles.
Voilà, attaques personnelles en évoquant effectivement du coup une prétendue origine bourgeoise, accusant effectivement en plus Charles à l'oncle sur les réseaux d'avoir mentionné ses origines égyptiennes comme étant sous-entendu une question, un problème, ce qui n'a jamais été le cas de la part d'Aloncle. Donc effectivement, le cas Nagui était assez révélateur de cette... d'une certaine caste qui intervient au sein de l'audiovisuel public et qui concentre un certain nombre de pouvoirs, d'argent,
de privilèges,
hein. et de privilèges.
Alors pour expliquer ce que vous dites, hein, ce que j'ai repris dans certains de vos articles sur Beauvoir Voltaire, parce qu'il faut bien comprendre, parce que souvent on largue comme ça des arguments, oui, sur le dos du service public, mais on n'arrive pas bien à comprendre, en tout cas nous, les mécanismes qui font que c'est notre argent public et comment il est employé et comment il est détourné, entre guillemets. C'est un peu subjectif ce que je dis, mais pour exemple, là, Aloncle a cité un audit de production qui a été consulté par la commission, selon laquelle Nagui se serait versé via la société, alors c'est Banijay, dont il est actionnaire, une rémunération supplémentaire, vous dites, hein, c'est vos recherches, de 378 000 euros sur une seule saison, en plus des 2500 euros par émission de N'oubliez pas les paroles. Nagui répond que ces chiffres sont des volumes, des chiffres d'affaires qui vont dans la production globale de l'émission. Il rappelle qu'il est salarié de Benagi, pas de France Télévisions. Alors là, c'est un peu subtil, mais on a tous compris que c'est la même chose. Qui a raison pour les chiffres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Nagui, qui est actionnaire de cette boîte de production, se rémunère de 378 000 euros, pour citer l'exemple, en une seule saison, ces 378 000 euros, c'est l'argent du service public, donc du contribuable, donc c'est partie des 4 milliards que vous citiez en début d'émission.
Ça, c'est une évidence. C'est un des éléments qui...
Mais c'est ça qu'on n'arrive pas, excusez-moi, hein, c'est ça qu'on n'arrive pas à... C'est concrètement, vous voyez, je me mets à la place des auditeurs qui écoutent, ils ont envie de dire, de toute façon, c'est des sommes faramineuses. On a même envie de lâcher le sujet, tellement c'est faramineux pour nous pauvres travailleurs. Mais il faut bien comprendre que c'est notre argent à nous, et que c'est avec cet argent-là, finalement, que ces gens... On paye le salaire, on est en pleine déclaration fiscale, là, c'est le bonheur, de Léa Salamé.
Je ne le fais pas dire.
Hein, on paye le salaire de Léa Salamé, on paye le salaire de Nagui. Il faut quand même comprendre qu'on parle d'argent qui appartiennent à chaque Français.
Ça, c'est certain. Il se trouve que ça a beaucoup été relevé par Charles Laloncle et par les travaux de la Commission. Que cela fasse partie intrinsèquement des budgets de France Télévisions, ou que cela passe par des maisons de production, des entreprises de production qui produisent du contenu pour France Télévisions, ces entreprises passent des contrats avec France Télévisions, et à ce titre, elles sont rémunérées par France Télévisions, et donc les salariés de Banijay, Media One, pour ne citer qu'elles, qui sont les deux plus grandes boîtes de production qui produisent du contenu pour France Télévisions, effectivement, sont rémunérées par de l'argent public. Et donc à ce titre-là, ce qui a été mentionné effectivement par Charles Laloncle, c'était que... ça pouvait créer des conflits d'intérêts s'il y avait une trop grande concentration. On ne reproche pas à Nagui de gagner de l'argent, on ne reproche pas à Nagui de produire des jeux et d'animer des émissions de divertissement qui d'ailleurs, effectivement, de
fonctionne
façon
bien.
Concrète, fonctionnent très bien et réussissent leur affaire. Mais Charles Laloncle souligne, un, est-ce que c'est la vocation du service public de mettre autant d'argent public, autant d'argent des contribuables dans les jeux, évidemment, les sports ont beaucoup été évoqués. Et deux, concernant hors divertissement, tout cet argent public, est-ce qu'il est utilisé à bon escient et à tout le moins avec une représentation équilibrée des Français, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, avec une impartialité de la part des journalistes qui s'expriment dans l'audiovisuel public.
Voilà, donc ça c'est une brique. C'est le « je brasse des millions, j'ai des montages financiers qui font que, bon, voilà, j'ai un très très bon niveau de vie avec de l'argent public ». Pour comprendre, deuxième brique, j'ai envie de dire, ok, une fois que Nagui a ses émissions, je prends Nagui, c'est pas pour me focusser dessus, c'est pour avoir juste un exemple. Derrière ça, ce qui se cache aussi, c'est que il donne des leçons à la télévision, on peut dire comme ça, mais je pense que Charles Alonca a repris cet exemple. Je pense que si vous êtes, vous dites, n'oubliez pas les paroles, que vous êtes que vous votez RN pendant l'émission, vous allez passer un sale quart d'heure avec Nagui, je pense aussi. Les leçons d'écologie, il s'était moqué aussi d'une candidate là qui venait de s'acheter un van diesel en disant que c'était pas écolo, lui-même se monte sur un yacht pendant ses vacances d'été. Caroline Parmentier, d'ailleurs du RN, avait interrogé Nagui sur ses positions que lui ne se cache pas de prendre anti-RN et lui demande si c'est son rôle d'animateur du service public d'affirmer ses positions politiques. Donc, ça va bien pour lui, l'argent public coule à flot dans les maisons de production de gens comme Nagui, et sachant qu'en plus de tout, c'est assez mal géré, donc déficitaire pour nous pauvres contribuables que nous sommes, mais qu'en plus, cet outil dont il dispose à nos frais, il s'en sert pour finalement faire passer des messages politiques.
Charles Alonca l'a plusieurs fois souligné, et les exemples sont pléthoriques. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit Nagui ou d'autres, bon, Nagui c'est encore plus aberrant parce que c'est au sein d'une émission de divertissement, donc c'est évident que des propos politiques ou des insinuations politiques pendant une émission, vous avez cité le cas effectivement, d'une personne à qui il a reproché ironiquement de voyager en van, ça n'a effectivement pas lieu d'être. On a effectivement deux points. Mais cet exemple a permis de souligner, et les faits ont été énormément démontrés, que lorsqu'elles sont interrogées, les personnes, souvent sur le service public, ne sont pas réellement définies, présentées de façon objective. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez Mathieu Pigasse qui est interrogé, qui est lui-même propriétaire de médias, actionnaire dans Media One, lorsqu'il intervient dans les émissions politiques de France 5, une émission qu'il produit lui-même, que sa société produit, ce devrait être mentionné, puisque forcément il est acteur. Oui. Et ensuite, un Mathieu Pigasse assume politiquement de mettre sa fortune à travers ses médias au service d'une lutte contre la droite nationale, contre l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Ces exemples, on peut les multiplier à l'infini, sachant qu'effectivement aussi, et ça c'était une des préconisations du rapport, les journalistes s'expriment à titre personnel selon eux, mais avec le tampon,
le label.
Le label du service public s'exprime de façon personnelle, souvent sur les réseaux, en exprimant des propos politiques. Et donc, effectivement, leurs propos politiques sont assimilés au service public, leur donnent une certaine officialisation, crédibilité, qui est une confusion grave des genres, puisqu'encore une fois, effectivement, les Français n'ont pas à payer pour un service public partial.
On a vu la levée de bouclier quand Eugénie Bastier a obtenu une émission sur le service public. Enfin, c'était une journaliste du Figaro. Pour eux, c'est le diable arrive sur le service public.
Mais ça, c'est certain. C'est intéressant
ce qui est quand même incroyable.
C'est aberrant. Mais c'est intéressant de le mentionner parce qu'effectivement, ça fait partie des petits éléments qui montrent que le travail de Charles Alonca porte du fruit.
Tant mieux.
C'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez prévu d'aborder, par exemple, le contenu du rapport.
Tout à fait.
Ça ne vous dérange pas qu'on en parle
pas du
maintenant.
Tout, allez-y, je vous en prie.
Sur le contenu du rapport,
Charles... 69 recommandations.
Voilà, Charles Alonca a fait effectivement énormément de recommandations. Parmi elles, Il y avait effectivement, concernant le sujet de la neutralité du service public, par exemple, une plus grande variété de chroniqueurs.
Ça va pas être compliqué. Hein.
Absolument, de chroniqueurs appartenant à des rédactions de sensibilité.
Vous devriez être contacté à Boulevard Voltaire à Pinon,
exactement,
vous allez voir.
Exactement, de sensibilités diverses. Et l'intervention de futur d'Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, dans une émission de France Télévisions, effectivement, un marqueur qui a des, il y a des choses qui vont dans le bon sens.
Elle rentre dans l'arène, hein, on va dire. Quand
elle
même,
rentre
hein.
dans l'arène.
Ouais.
Et effectivement, un autre point par exemple, le rapport mentionnait la fusion entre les chaînes, par exemple France 2 oui. Et France 5, la fusion entre France Info TV et France 24, la suppression de France 4 et de France TV slash, un certain nombre de mesures comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines après, il y a 10 jours, Delphine Ernotte, la présidente donc de France Télévisions, a présenté des mesures à son conseil d'administration qui devront être réfléchies, débattues et présentées ensuite à Catherine Pégard, la ministre de la Culture. Parmi ces recommandations, il y a effectivement l'éventuelle suppression de France 4 et il y a une éventuelle... Je l'avais noté parce que je l'ai là. Une suppression, effectivement, de France 4 et de France TV Slash.
Parce que c'est France TV Slash.
France TV Slash, c'est
connu,
un contenu numérique sur France TV.
D'accord.
Et Charles Lalonc l'a beaucoup mentionné des positions très politiques, très woke, dans le contenu. On va faire la promotion du transgenreisme.
Ah oui.
Tout ça de manière déguisée, mais il y a un militantisme apparent qui ne se cache quasiment plus. Et donc c'est très frappant de voir que Delphine Ernotte maintenant est acculée. Elle est obligée d'accepter que désormais des modifications, des changements au sein de France Télévisions sont obligatoires. Le statu quo n'est pas possible et c'est très marquant. De considérer que tout cela arrive justement après les travaux de la commission. C'est évident que cette commission portera du fruit.
Disons que là, ils sont sous les projecteurs, donc ils doivent bouger dans le bon sens. Alors là, il y avait 69 recommandations, là vous les avez mentionnées, hein, fusion de France 2, France 5, suppression de France 4 et Slash, devoir de réserve renforcé pour les journalistes, et surtout des milliards d'économies pour nous, les contribuables. Alors, en fait, ce qu'il veut, lui, Charles Lalonc, c'est ce qu'il dit en tout cas, c'est vouloir du pluralisme, ça ne va pas être compliqué, mais pas la privatisation, par contre. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ses souhaits, comme son allié, le RN, peut le vouloir.
C'est une vraie question, et elle va certainement être débattue entre le Rassemblement National et l'Union des droites pour la République, donc le parti d'Éric Ciotti, fondé en 2024. Charles Lalonc s'est défendu, contrairement à ce que pouvaient dire énormément de ses détracteurs, de s'attaquer frontalement au service public, à l'audiovisuel public, et de revendiquer sa privatisation. C'était un des points qu'il a maintes fois répété, auquel il est attaché. Il n'est pas pour la privatisation du service public, il est pour une refonte, il est pour des changements en profondeur. Il a rappelé souvent son attachement au service public, à l'audiovisuel public, et dans quelle mesure celui-ci avait éveillé en lui sa vocation politique. Marine Le Pen, elle, effectivement, s'est exprimée donc, ces dernières semaines favorablement vis-à-vis d'une privatisation. Mais c'est intéressant, en notant, et je pense que c'est un équilibre qui est important et qui sera entendu, qu'il fallait conserver des éléments de service public pour, par exemple, porter la voix de la France à l'étranger à travers les médias. On pense à des chaînes comme France 24, à des chaînes comme Arte. Donc si vous voulez, ou même par exemple à une plateforme comme l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui recense toutes les archives de la télévision. À ce titre-là, vous avez un certain nombre de missions du service public qui selon Marine Le Pen, doivent rester, demeurer. Mais effectivement, c'est un argument politique très fort pour le Rassemblement national de revendiquer une privatisation face à tous les excès qui ont été démontrés. Et encore une fois, avec l'argent des Français.
Alors, il y a eu des contre-vérités, évidemment, puisque c'est quand même une bataille de l'information concernant la sortie de ce rapport et les préconisations de Charles Alloncle. On a cité la contre-vérité, Charles Alloncle voudrait privatiser le visuel, il n'en est rien, vous venez de nous l'expliquer. Une autre contre-vérité, le rapport proposerait la suppression des grandes compétitions sportives, Tour de France, Roland-Garros, Six Nations. Comment cette version a-t-elle circulé et quelle est la position exacte du rapport ?
Le rapport demande effectivement à ce qu'il y ait entre 200 et 300 millions d'économies concernant le budget des sports, ce qui équivaut effectivement grosso modo à 175% de sa valeur totale. Et Charles Alloncle a dénoncé une instrumentalisation, une de fausses informations, démontrant qu'effectivement sa proposition revenait à s'attaquer au totem du sport français, les compétitions auxquelles les Français sont les plus attachés. On pense au tournoi des Six Nations en rugby, au Roland-Garros évidemment, au tennis et au Tour de France aussi. Il a rappelé que s'il fallait garder un certain nombre de points, c'était ces grandes compétitions. Et donc, à ce titre-là, ces économies ne concernaient pas ces grandes compétitions.
Il n'y a pas de foot, d'ailleurs, je fais la réflexion.
Non, il y a assez peu de football, mais il faut dire que la question des droits est une question compliquée.
Ouais.
Et effectivement, c'est surtout les entreprises privées, Amazon, Canal+, qui aujourd'hui s'arrachent le marché. Or, quelques grands matchs de finale de compétition qui, pour le coup, sont retransmis sur le service public. Mais c'est intéressant aussi. Je vous parlais tout à l'heure des propositions de Delphine Ernot concernant des modifications et des changements réalistes, en tout cas réalisables pour France Télévisions. Et il y a cette question de la place des sports. C'est-à-dire qu'en fait, avec la question, vous avez un scénario premier qui pourrait être la fusion de France 2 et France 4 et France 5, pardon. Mais vous avez aussi un scénario qui est diminuer la place des jeux et des sports au sein de France Télévisions. Donc c'est un marqueur très important. Et on voit là encore que des changements sont certainement à venir. Mais bon, faudra pas effectivement baisser la garde parce que on connaît les propos, les promesses, et derrière, il faut qu'elles se réalisent.
Alors, une autre contre-vérité, mais ça, vous allez nous en dire plus. Alloncle proposerait une nomination du président de France Télévisions par le chef de l'État sans aucun contre-pouvoir. Comment ça se passe aujourd'hui, pour rappel auprès de nos auditeurs de Radio Courtoisie, comment devient-on président de France Télévisions ?
Alors aujourd'hui, c'est l'ARCOM. Donc effectivement, cette organisation indépendante qui est censée faire effectivement la police et de vérifier qu'il n'y ait pas de difficultés sur les ondes et sur les écrans du service public. L'ARCOM, vous avez un appel à candidature et ensuite c'est l'ARCOM qui choisit.
Tout le monde peut candidater.
Tout le monde peut candidater,
bon,
absolument.
Et un appel à nos auditeurs de Radio Courtoisie aussi,
voilà,
pour la prochaine fois. Voilà,
effectivement, Charles Alloncle, ce qui a été déformé, c'est qu'on évoquait, quasiment effectivement une nomination personnelle du président de la République. Notons que ça c'est quand même effectivement extrêmement ironique et incroyablement hypocrite de la part des détracteurs, parce que les nominations du président de la République validées par des instances comme le Parlement ou d'autres points, elles sont pléthores. On pense ces derniers temps à la Banque de France, au Conseil constitutionnel. Là-dessus, effectivement, on en a beaucoup parlé. Donc Emmanuel Macron a placé une dizaine de disciples à la tête des plus grandes institutions de l'État. Donc faire le procès à Charles Alloncle de donner le pouvoir au président de la République de nommer le président de France Télévisions, des grands dirigeants de l'audiovisuel public, c'est quand même effectivement assez fort. Et en l'occurrence, Charles Alloncle s'est défendu, cette nomination serait confirmée par un certain nombre d'acteurs, comme la commission des affaires culturelles au Parlement. Donc ce ne serait pas une nomination absurde qui tomberait de nulle part.
Alors, pour finir, il nous reste 3 minutes et demie. On a eu le 27 avril dernier 12 voix, rappelons qui a voté d'ailleurs, pour 10 contre, après 5 heures de débat tendu, 2 voix de moins et le rapport disparaissait. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment un rapport d'une telle ampleur pouvait légalement disparaître?
Écoutez, ça paraît effectivement un peu absurde, mais pour paraître, un rapport doit être voté majoritairement.
Pour paraître au JO, pour paraître au journal officiel. Pour exister, en fait, même.
Pour exister, ouais. Est-ce qu'il s'agit du journal officiel, je ne sais pas, mais en tout cas, sa publication. Ouais. Et avec le maintien en ligne de l'ensemble des auditions au sein de qu'on peut retrouver dans le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Donc, on a frôlé le scandale et la censure. Politiquement, Charles Laloncle était de toute manière bénéficiaire de cette séquence parce que voilà, le contenu du rapport étant publié,
le travail était fait.
Mmh. Bon, ceci dit, s'il n'était pas publié, il y aurait eu un écho considérable tout de même à son travail. J'ai envie de dire l'essentiel de toute manière est fait et ensuite ses préconisations auraient filtré dans des médias, enfin rien ne l'empêchait à titre personnel de faire paraître un document et de proposer ses préconisations. Donc je pense que les membres de la commission étaient un petit peu coincés et qu'ils ne voulaient pas voter ce rapport, ce qui semblait sous-entendre qu'en votant ce rapport, ils avalisaient, ils validaient ses préconisations, ce qui était totalement faux. Et voilà, in extremis, ce rapport a finalement pu être publié.
Alors, le rapport est mis en ligne le 5 mai dernier. Le site de l'Assemblée nationale tombe sous la charge des téléchargements. Pourtant, je l'ai regardé, il fait quand même 550 pages de mémoire. C'est inédit, hein, le fait qu'on fasse sauter le site de l'Assemblée nationale. Comment vous interprétez ça?
Ça a été énormément souligné. Les Français ont découvert l'ampleur d'un phénomène qu'ils pressentaient. C'est-à-dire que personne n'est dupe. Tout le monde, sans écouter régulièrement France Inter, France Info, ou être toute la journée devant France Télévisions, a bien considéré à de multiples reprises que le service public manquait à ses devoirs. On l'a évoqué, de neutralité notamment, et d'impartialité. Ce qui, en tout cas, est la partie la plus visible. Mmh. Parce qu'on ne parle pas des questions financières qui, effectivement, ne se voient pas directement. Et là-dessus, les Français ont enfin trouvé un espace où la vérité leur était révélée et où ils pouvaient trouver une source pour mettre enfin des visages sur un nom, c'est-à-dire effectivement le vol de leur argent pour se faire souvent insulter.
Alors merci beaucoup Yves-Marie Sevilla. Donc j'invite nos auditeurs de Radio Courtoisie à retrouver vos papiers sur Boulevard Voltaire, sur ce sujet mais sur d'autres. Merci d'être venu parmi nous et aux auditeurs de consulter ce fameux rapport sur le site de l'Assemblée nationale.
Merci à vous.
Merci à vous, très bonne journée et à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Liberté de Penser, dirigé par Clara Schneider, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 3 juin 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.